La barge russe, tous les jours, à 14h, avec Johnny Tuvebeck. L'enregistrement qui va suivre est une séquence du congrès Antépop sur l'harmonie, qui se passe avec l'étymologiste Arnaud Villani. Par la science et l'origine des mots, une philosophie qu'il a su développer, qu'il développe par ses connaissances, par ses études, son travail. Cet enregistrement est de très mauvaise qualité. J'avais enregistré, j'avais réécouté, c'était mauvais, donc j'avais mis de côté et j'ai réécouté. Mais je vous demande de prêter l'oreille, parce que vraiment, mais c'est retournant. Donc j'ai fait une espèce de sélection, même si ça a été assez compliqué, assez dur, une sélection. J'ai enlevé des trucs qu'on comprenait vraiment, vraiment, vraiment mal. Ce qui reste, va être, pour moi, ça représente beaucoup. Ce qu'il traite, il va traiter donc de l'harmonie. De l'équilibre, de l'harmonie, des principes de la nature, du jeu de force qui est contracté, la nature qui est même pas contractée, qui est naturelle même. Et un élément important, c'est qu'il ne faut pas enlever l'élément important de la force inverse. Et là, je trouve que ça se comprend vraiment lorsque un débat entre deux personnes, l'autre va vouloir enlever les forces de son adversaire pour dominer, devenir le surhomme. Et il fait écoutez, mais on parle de Nietzsche, on parle de c'est passionnant ce discours. Et bien sûr, dans sa spécialité, il parle bien sûr grec, latin, Arnaud Villani, il parle de Socrate, Platon. Et même avant, Parménide, il parle de... Enfin, c'est génial. Allez, vous écoutez ça et vous m'en reparlez après, ok?
Si on a de l'harmonie, c'est que ça concourt, ça concerte, c'est concertant. Mais il faut toujours qu'il y ait l'aigu et le grave.
Oui, oui, oui.
Le fortissimo et le pianissimo, etc. Une couleur d'un instrument et puis une autre couleur de notre instrument.
Donc en fait, il faut ça pour un équilibre, justement.
Et voilà, on y vient, à une position sur l'équilibre qui est, elle aussi, différente. Autrement dit, en général, le problème qui a été, au fond, très ennuyeux dans le début de la philosophie platonicienne, c'est que l'équilibre s'est mis à devenir fade.
Ouais.
C'est-à-dire, au fond, l'équilibre, c'est une perte de force.
Ouais.
Chacun en rabat de ses prétentions. Il dit, ah bon, ben d'accord, si tu veux, alors moi je vais abandonner ça, toi tu vas abandonner ça, etc. Et on arrive très vite à une position qui n'est pas originale, qui n'est pas non plus vivifiante, qui n'est pas finalement intéressante. Chacun cède.
Bon, donc on assiste à une conformité par un conditionnement.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais.
Ok.
Je vois, oui, bien sûr.
Donc, ce qui veut dire que quand moi, personnellement, je lis Parménide, je m'aperçois que ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut surtout pas enlever aux éléments opposés la force.
Oui.
Et je prends un argument, parce que vous connaissez un peu la vulgate sur Parménide, on dit le prologue, ça ne sert à rien, hein, c'est juste une introduction poétique, bon, on ne lit pas. Ensuite, le véritable fragment important, c'est le fragment 8, et on dit que c'est un fragment ontologique. Donc déjà, on a sauté du côté de la métaphysique, on va dire là, qui existe tout seul, au fond, tout ce qu'on voit, ça ne sert à rien, c'est rien du tout par rapport à l'un, etc.
Mm-hmm.
Et à la fin du fragment 8, il y a un texte qui est très intéressant dans la déesse qui, justement, se tient au milieu. Et elle se tient au milieu parce qu'elle représente l'équilibre. Elle représente l'équilibre parce qu'elle est, en fait, celle qui tient les forces de l'univers. qu'il y a un être, et l'être qui produit, c'est un être d'équilibre, mais en tension. Ok ?
Oui.
Bon. Eh bien, ce petit passage très court, hein, vers, si je me souviens mieux, bien, c'est vers 52 à 60, quelque chose comme ça, la déesse s'arrête de dire la vérité. C'est pas pour dire un mensonge, comme on dit en général, c'est pas pour désigner les fragments de la fin comme pur mensonge ou une illusion ou juste qui servirait à parler au milieu des assemblées. C'est pour faire le complément de la vérité en désignant l'erreur. Ça va ?
Oui.
Comment désigne-t-elle l'erreur ? Ben, elle le dit dans les phrases très claires. Elle le dit en prenant l'exemple du feu et de la flamme et de l'ombre. La flamme, la lumière, l'ombre. Et il dit, l'erreur est mortelle, et cette erreur pour Parménide et pour la déesse qui parle à Parménide pour lui enseigner un peu comment va l'univers, quoi. Cette erreur, elle est mortelle.
Oui.
C'est ça qui casse l'unité de l'univers. Et cette erreur toute simple, c'est de dire, la lumière, c'est tout. Toute la valeur. Et l'ombre, c'est rien.
Ça, c'est l'erreur.
Ça, c'est l'erreur.
Ah, ouais.
Et de dire les deux à la fois.
Et donc, à ça, rien que ce, ah ouais, c'est rien que ça, ça illustre tout, quoi. Ça, tout peut, par exemple, un mensonge, on va se dire, ouais, le mensonge, c'est mal, et en réalité, le mensonge va pouvoir apporter quelque chose, ouais, ouais, putain, c'est génial.
On peut apporter quelque chose, tout.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Donc, on commence à comprendre que ce qui est le réel, c'est pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, en disant le bien c'est magnifique, c'est les anges, c'est la musique,
ouais,
etc. C'est Dieu, et le mal c'est l'horreur, c'est Satan, c'est les flammes. Bon, c'est justement ce qu'on nous a mis dans la tête,
oui.
Et n'arrêtons pas de penser de cette façon-là en continuant à respecter cette logique d'identité qui est manifestement niée par la microphysique quantique. Donc, il faut revenir à Parménide et comprendre ce qu'il veut dire. Il veut dire arrêter de casser les couples opposés, car dans les couples opposés, ce qui est valable, c'est le couple. C'est la puissance qui est dégagée par la tension entre les deux forces contraires.
Ah ouais, ouais, bah ouais, je vois carrément. C'est... Mais en fait, là, quand vous dites ça, moi je repense en plus à ce que vous disiez au début. Charpentier, j'ai tout de suite essayé de comparer ça aux lieux saints, vous savez, des lieux dans lesquels on ressent quelque chose, un temple ou je ne sais quoi a été conçu à cet endroit pour une raison. Vous voyez, et là, je me dis ça en fait, ceux qui ont, je ne sais pas comment on peut appeler ces gens-là, ou qui ont décidé de construire un temple ici, ils ont ressenti ça justement.
Oui,
c'est ça.
Il représente de Saker, quelque chose qui était très puissant et avec lequel il fallait justement trouver des rites, des termes, des formules, des gestes qui conviennent et qui puissent préserver la force du Saker.
Ouais, c'est ça.
Que la Saker soit destructeur.
La Saker, vous dites ?
Le Saker.
Le Saker.
C'est le mot latin qui a donné sacré.
Ah,
en
oui,
vrai, c'est hieros.
Ok.
Voilà, hieros.
Le sacré.
Bon. Donc, l'idée, c'est de retourner à la perception des forces, d'apercevoir qu'entre deux opposés, qui sont des opposés conceptuels, qui sont des opposés qui sont dits par la langue, il existe en réalité, sous ces concepts, une force concrète. Cette force concrète doit cohabiter, c'est le principe de la nature, hein, doit cohabiter avec une force inverse. Et le tout de la force A, petit a, et la force petit b, c'est quelque chose de plus qui s'appelle équilibre ou tension ou harmonie.
Ouais.
Donc l'une des forces et l'autre se combinent et produisent une charpente.
Ouais.
Quand on se met à croire vraiment que les choses n'ont pas de tellement d'intérêt à aller voir du côté de la transcendance, parce que la transcendance, c'est jamais que un concept, je dis, un peu emphatique. Hein. C'est un concept emphatisé, la transcendance. Si on se remet à voir l'immanence, comme tentait le faire Nietzsche, on s'aperçoit que tout est question de force, force contre force. Et le problème, c'est arrêter de céder à la pression du concept qui veut que tout soit régi par une logique d'identité qui fait que, en plus, une fois qu'on a dit A égale A, on s'amuse à faire en sorte de trouver un opposé de A qui soit lui-même, admettons B égale B, B près des identités, mais qui soit dévalorisé par beaucoup. On va s'ingénier à trouver des concepts dans lesquels il n'y ait pas ce jeu de force où tous les deux fonctionnent ensemble parce qu'ils travaillent l'un contre l'autre pour créer quelque chose de plus qui est leur unité. On dit qu'il faut devenir adulte quand on parlait de dépasser la minorité, accéder à la majorité, etc. Bon, je dis dans le sens politique, mais enfin on peut le transcrire.
Oui, je comprends.
Simplement, de la vie. Et bon, bien, on peut comparer avec la vieillesse. Non. Dans ces rapports, on n'arrête pas de poser que, par exemple, l'adulte est supérieur à l'enfant, ou bien que l'enfant est supérieur au tout bébé, au tout jeune bébé, ou bien que l'adulte est supérieur au vieillard, et ainsi de suite. Et on crée partout ces oppositions qui sont complètement artificielles, qui sont purement conceptuelles, et qui disent A est bon et B est mauvais.
Oui.
Quand on fait ça, on détruit justement Harmonia.
Oui.
On détruit l'équilibre.
Oui.
Le problème, c'est que... Alors maintenant, je laisse un peu de côté les présocratiques, je vais un peu vers l'époque platonicienne, socratique et platonicienne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Socrate et Platon? Ça, je le dirai plus en détail parce que je suis en train de sortir un livre qui paraîtra en septembre sur la philosophie grecque dans son ensemble.
D'accord.
Et en essayant de faire au fond ce livre de deux façons. D'un côté, pour tout le monde, lisible par tout le monde.
Oui.
Dès tout jeune.
Accessible.
Et de l'autre côté, ce sont les notes qui sont, au contraire, très travaillées, très techniques et qui peuvent servir à des étudiants même de 3e ou 4e année.
Mmh.
Donc voilà, pour essayer d'être clair, quoi, pour essayer que la philosophie, enfin, parle à tout le monde, à tout public. Bon. Quand on regarde ce principe de reprenons l'idée de tenue, et sortons des présocratiques, qui ont au fond une sorte de gigantesque entente, bien évidemment, contrastée, qui ne disent pas du tout la même chose. Et même, ils s'opposent. Bon, mais
harmonie.
On sort de cette entente présocratique et on arrive à, au fond, à l'époque ici, Socrate et Platon. Qu'est-ce qu'ils font? Et Socrate parle avec de jeunes gens sur quoi? Sur des concepts. Et Platon développe des dialogues très très beaux, très séduisants, très intelligents. J'ai décortiqué des passages au mont Pré, hein. J'ai analysé, par exemple, la colonne lumineuse à la fin de la République. Et j'ai vu à quel point c'était travaillé, c'était extraordinairement travaillé, c'est un très grand styliste, ça on ne peut pas le dire. Mais que fait-il? Ben, il développe des concepts. Socrate parle et Platon écrit des dialogues. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils se détournent de l'harmonia socratique, c'est-à-dire de la conception de force en opposition, en tension, pour créer de l'unité. Vous entendez? Pour créer de l'unité. Et on va oublier la préoccupation du cosmos. On va oublier ce qu'ils appellent fusis, c'est-à-dire la nature. La nature ne passe jamais par des concepts. Elle n'est pas conceptuelle, la nature. Elle travaille, elle fait énormément de choses. Elle fait des choses sur des milliards d'années. Et elle a réussi quand même des choses inouïes.
Oui.
Non, fabriquer des yeux pour les animaux.
Oui.
Parce que ça, quoi. C'est quand même invraisemblable. Pourtant, il n'y a pas un seul concept dans la nature.
Oui.
Or, de fond, Socrate et Platon, ils introduisent la philosophie. Le mot va se à partir de ce, un peu plus tard que à partir de cette date, en tout cas, disons, à partir de limite la philosophie par le concept. Donc ils réduisent l'objet de la philosophie à l'homme. Mm-hmm. C'est pas pour rien que Nietzsche, très tard, et travaillant justement contre Socrate et contre Platon, plutôt même contre Socrate que contre Platon, va dire trop humain.
Ouais. Humain.
On est passé à du trop humain. C'est-à-dire que la philosophie va être tout le temps une sorte de ressuscité de concepts humains. Il n'y a de concepts qu'humains. Et par conséquent, tout cet âge de la philosophie sera une totale, comment dire, scotomisation. Le mot est un peu compliqué, mais oui. Là, c'est facile, ça vient de scotos qui veut dire ombre. Donc, totale mise dans l'ombre oui. De tout ce qui n'est pas humain.
Oui, voilà, c'est un peu. Ouais, ce genre de truc-là, je l'appelle occidentalisation.
Oui, aussi.
Ouais.
C'est le principe.
Oui, je vois bien.
Le principe, c'est ça. C'est on arrête de parler du cosmos. Le cosmos n'est pas intéressant. On arrête de parler des animaux, on arrête de parler des végétaux, on arrête de parler des minéraux. On maîtrise la matière, on maîtrise le corps, etc. Évidemment, ça a eu des hauts débats. Il y a eu des penseurs qui ont bien vu que ce n'était pas réel, tout ça. Il y a un certain Schopenhauer qui a dit arrêtez de croire que la philosophie est une représentation, tournez-vous un peu vers la volonté, et la volonté c'est aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., la nature. Donc bref, je résume, avec Socrate et Platon, on commence une toute autre philosophie que celle qui avait eu alors jusqu'alors. Fondée sur le principe d'identité, et comme elle se fonde sur le principe d'identité en même temps qu'elle introduit une valorisation entre les forces opposées, elle va aller nous conduire tout droit au manichéisme.
Ouais. Et là, avant de bientôt terminer, je vais. Il y a un point. Vous avez abordé Nietzsche à plusieurs reprises. Nietzsche, bon, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les auditeurs, il a fait son premier livre, c'est Naissance de la tragédie, sur justement toute la culture grecque, la philosophie grecque, donc je tenais à le préciser. Et Schopenhauer était un petit peu, si on peut dire, le maître à penser, au début en tout cas, de Nietzsche.
Tout à fait.
Oui, voilà. Et donc, attendez, c'est qu'en fait, vous avez à plusieurs moments dit Socrate était trop humain, qui est aussi un livre de Nietzsche. Et ce qui, moi, il y a un truc qui me tarabuste énormément en ce moment, c'est que je me dis l'harmonie, quand on est vraiment en osmose avec le présent, alors l'harmonie et le chaos, hein, d'accord. Je reprends, je suis exactement comme ce que vous venez de décrire.
Ah, oui.
On va appeler ça l'harmonie. Eh bien, ça m'envoie des signaux, des ondes de télépathiques. Je ressens des choses qui vont arriver. Et là, j'en ai un exemple. Bon, après, ça concerne que moi. Mais j'ai un exemple là qui est quand même très fort. C'est que peu de temps avant que vous ne parliez de Nietzsche, j'ai failli le dire, pas dire Nietzsche, 2 minutes plus tôt. Donc je me suis dit, ah ouais, là, c'est la télépathie. Et puis après, humain trop humain, mes livres de Nietzsche sont rangés dans le grenier, et j'ai été le chercher. Humain trop humain. Et c'est pareil, je trouve ça. Voilà, je tenais à le préciser, parce que ça peut paraître rien du tout, mais là, de mon côté, je trouve ça très fort et très puissant. Après, la télépathie, c'est ce que je décris dans mes émissions de radio, c'est pas... C'est pas ce qu'on voit dans les films. Tiens, toi, tu penses ça. Non, c'est plutôt des envois de signaux. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà.
D'accord.
Je l'ai dit.
Non, mais c'est normal que fasse interroger la télépathie, même si on n'y croit pas.
Oui.
De toute façon, la science occidentale nous a privés de cet être autre qui est le nôtre, qui est l'inconscient.
Exactement.
La façon d'aller vers les choses en recevant des vibrations, en recevant des impressions, des tonalités, des atmosphères, des synesthésies, des sénesthésies, des kinesthésies, etc. On nous a privé très longtemps de cette sensibilité qui est absolument justement totale. Il y a une sensibilité qui vient de l'homme qui peut entrer en harmonie avec la sensibilité qui vient des choses, qui vient des matières, qui vient des animaux, des végétaux. Donc, c'est bien ça qu'il fallait, au fond, redresser. C'était le principe que l'harmonie n'a rien de fade, il n'a rien de l'équilibre. Au fond, vous savez, le contresens qu'on fait généralement, lui, qui est bien connu, c'est aurea mediocritas, et on traduit une médiocrité dorée. En réalité, cette expression aurea mediocritas veut dire exactement un juste milieu qui vaut de l'or. Moi, c'est un éloge de l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est le point en tension entre deux forces qui s'opposent. Sinon, si on reçoit quelque chose, par exemple une grande œuvre, je ne sais pas, la Sibérie de Zarathustra ou bien la cinquième de Beethoven, si on reçoit quelque chose d'une grande œuvre, on reçoit en réalité ce point qui est en même temps immobile et en mouvement.
Ouais.
C'est un point traversé par les tensions.
C'est ça, exactement. Et là, je vous sais aussi grand. Grand lecteur de Gilles Deleuze, avec qui vous avez d'ailleurs eu une correspondance, à qui vous avez écrit « La guêpe et l'orchidée », par l'ouvrage par lequel on s'est rencontrés, si je peux dire. Et lui-même décrit justement ce point noir en décrivant Paul Klee, un texte, je ne sais plus où il est, mais il décrit ce point noir justement, exactement ce que vous dites. Donc, alors là, on est en plein dedans.
Le point de tension, il y a un texte excellent de Paul Klee qui est Théorie de l'art moderne.
Oui, mais c'est ça, c'est là-dedans.
Voilà.
C'est à la fin, oui.
Le point gris qui sort, saute.
Le point gris, exact.
Gris, ouais.
Parce que pas le noir et blanc, il en parle. Ouais, c'est ça, bah ouais, carrément, bah super.
Toujours cette histoire de tenue, voilà. Tableau, vous avez des centaines d'oppositions.
Ouais. C'est enfin, fantastique.
La totalité de ça qui vous envoie un appel, qui vous envoie un choc.
Ouais. Ouais, alors là, ouais, je suis sous le choc. On voit, on comprend que ici, l'harmonie avait été comprise et a été interceptée par le modernisme pour l'occidentalisation, selon mon interprétation, bien entendu.
La barge russe, tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tchivbeck.